Bonsoir à tous. Armez-vous de patience et de tests. Nouveau protocole à l'école, nouvelles règles dans les transports, au travail. Le variant Omicron bouscule ce début d'année. Et les débats à l'Assemblée nationale, houleux sur le pass vaccinal, nous y sommes. Les échanges vont durer toute la nuit. Dans l'actualité encore, Caddy, le fabricant de chariots, est en cessation de paiement. Les Canaries, dernière chance des migrants, mais une route très meurtrière l'année dernière, on le verra. Et puis Vannes, PSG, affiche des 16e de finale de la Coupe de France de foot. Dommage pour les Bretons, pas plus de 5000 personnes en tribune. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, ce soir, à vous de nous dire comment vous jonglez entre les enfants à l'école qui peuvent revenir qu'à contact, les institutrices ou les profs qui sont positifs, le présentiel, le distanciel dans votre entreprise. Une organisation de ministres entre les tests et aussi l'incertitude. Vous pourrez dialoguer, partager vos expériences avec des professeurs, directeurs d'établissement et chargés des ressources humaines aussi. C'est au 01 45 24 7000.
France Inter. Combien d'enseignants n'ont pas pu faire leur rentrée aujourd'hui parce que positifs au Covid? Combien de coups de téléphone les directeurs d'école ont-ils passé pour expliquer le nouveau protocole aux familles? Et combien de parents sont repartis, enfants sous le bras, pour les faire tester? Le retour des vacances, ça a d'abord été une rentrée compliquée aujourd'hui par la flambée du variant Omicron et par les nouvelles règles à l'école. Bonsoir Magali Aumont.
Ouais, bonsoir.
Vous êtes allée dans une école parisienne aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on s'est débrouillé? Est-ce qu'on a fait au mieux?
Alors voilà, la journée a commencé par l'appel des élèves, mais pour une fois, le directeur Philippe Brice a compté les absents.
Il a fallu qu'on comptabilise les positifs. J'en ai 8 sur 355 élèves.
Il s'estime assez chanceux dans son école du 16e. À côté, 30 élèves sont restés à la maison dans l'école d'à côté. Pour l'instant, aucun professeur absent. On s'y prépare et la procédure est assez floue.
Je ne sais pas. C'est-à-dire la complexité. Si des enseignants absents sont remplacés, les enfants viendront en classe. S'ils ne sont pas remplacés, ça sera beaucoup plus compliqué. On pourra pas, au nom du nombrassage, on ne peut pas les répartir dans les classes.
Du côté des parents, on est plutôt serein. Ils ont été très bien informés hier soir du nouveau protocole. Cette maman en est d'ailleurs satisfaite, notamment en ce qui concerne les cas contacts.
Je trouve ça plus rassurant, le fait qu'il faille juste faire des tests et après des autotests. Surtout qu'on est une famille de 5 et que si on l'a tour à tour... On pouvait être isolé pendant X temps, quoi.
D'autres, évidemment, sont moins convaincus.
Je pense qu'on devrait prendre un peu plus de précautions. Il aurait peut-être fallu fermer la classe, comme c'était le cas avant.
Et qu'en pensent les premiers concernés?
À l'école, c'est plus bien. À la maison, tu t'ennuies. C'est plus facile à l'école.
En ce jour de rentrée, les enfants votent pour les copains d'abord et surtout pas l'école à la maison.
On anticipe tout de même de la désorganisation dans les jours à venir. Merci Magali Aumont. À Paris, notamment là où vous étiez aujourd'hui, les écoles ont reçu comme consigne de prendre en charge les enfants des soignants de l'APHP, même en cas de fermeture d'une classe ou d'absence des enseignants. C'est une information France Inter ce soir de Faustine Calmel. 3 tests en une semaine s'il y a un cas positif dans la classe. Le premier PCR, puis 2 autotests gratuits donné en pharmacie à J+2, J+4. Ça, c'est le protocole global pour les écoles. Il va falloir que les stocks suivent. Et après la ruée des fêtes, ce n'est pas facile partout. D'autant que c'est l'autre image du jour. Les files s'allongent pour faire des tests PCR, des tests antigéniques, des cas contacts du réveillon. C'est le reportage dans une pharmacie de Tilly-sur-Seul, près de Caen, de Nolwenn Lejeune.
Le visage à la fois protégé par un masque chirurgical et par un FFP2, Aurélien Tesson enchaîne.
Les nez les uns à la suite des autres.
Bonjour messieurs, dames. C'était pour un petit test?
Oui.
Venez avec moi.
Les tests se déroulent dans une petite salle située dans le fond de la pharmacie.
Vous allez pouvoir garder le masque sur la bouche.
Voilà, pour la première narine.
La généralisation des autotests est une bonne chose, poursuit-il, mais ça nous donne encore plus de travail.
Des gens qui viennent nous voir en nous disant, bah voilà, il y a un minuscule trait, est-ce que vous pouvez me le refaire pour être sûr? Et on s'aperçoit que dans la majeure partie des cas, c'était bien positif.
Le problème, c'est que tout se fait au détriment de l'activité habituelle, déplore-t-il.
Je veux pas délaisser mes patients de la surveillance de leur traitement, donc on a tout le reste à effectuer. Enfin, les pharmaciens, là, à l'heure actuelle, sont exsangues.
Mais il faut être là pour répondre à la demande.
Si je dis aux gens ici, j'arrête de tester, ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent jusqu'à Bayeux. Il n'y a pas grand monde, en fait, dans le coin qui va pouvoir prendre le relais.
Et le nombre de cas positifs explose, littéralement.
Juste après les fêtes de Noël, on était entre 5 et 15% par jour de positifs. Là, j'ai fait mes statistiques uniquement sur la matinée. Je suis à 28%. Donc, il faut assurer, assumer.
Si je ne vous rappelle pas, c'est que c'est bien négatif et vous aurez le résultat en milieu d'après-midi, oui, en version officielle. Mais pas de nouvelles de moi dans les 15 minutes, c'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle.
D'accord ?
Très bien.
Et vous souhaitez bon courage.
Merci beaucoup.
Un reportage France Bleu Normandie, Nolwenn. Antoine Lejeune. Un test avant d'aller travailler. Les règles d'isolement ont été allégées. Si vous êtes cas contact mais vacciné, plus d'isolement. Si vous n'avez pas fait le rappel ou que vous n'êtes pas vacciné, vous devrez rester 7 jours à la maison. Et dans ce qui change aussi aujourd'hui, dans les bars, interdiction de boire au comptoir, y compris un café allongé. Bon, ça a été la blague tout le week-end sur les réseaux sociaux. Et puis dans les trains, plus de pique-nique à votre place. Il faut avoir mangé avant et donc s'organiser. Reportage Gare de Lyon à Gérard Mohamed.
Chambéry, Lyon, Tours, voilà le marathon du jour qui attendait Yannick. 8 heures de train sans manger, alors le jeune homme a tout misé sur le petit-déj.
On fait un double petit-déjeuner si on veut. Des œufs brouillés, des fruits, yaourt, céréales, et puis ça permet de tenir largement jusqu'à la pause.
Une pause express pour Jérôme qui avale son sandwich préparé à la maison.
J'ai un quart d'heure, donc je mange maintenant et je reprends le train à 14h. Ça va être assez compliqué, mais c'est compliqué depuis 2 ans.
Plus philosophe, Xavier, en attendant son train, ce voyageur lui s'offre un bon déjeuner dans son brasserie en face de la gare.
Il y avait quoi au menu ?
C'était un hamburger. Ça va, normalement c'est bon jusqu'à Dijon, c'est bon.
Dans le fast-food juste à côté, les commandes s'enchaînent.
On l'a faite, Génal, à 53-60. Il y en a deux.
Fadila, la responsable, ne s'attendait pas à voir autant de monde.
Là, habituellement, c'est plutôt calme le lundi. Et là, ce matin, exceptionnellement, depuis ce matin, on n'a pas arrêté. Donc, il y a beaucoup de monde. Regardez, il y a du monde en terrasse, il y a du monde à l'étage. Pourvu que ça dure, l'interdiction dans les trains.
Pas trop quand même, avertit Eric. Lui est vendeur dans une supérette située à l'intérieur de la gare.
Je pense qu'on aura vraiment un gros impact. De là à dire que ça sera une perte de 50%, honnêtement, je ne pense pas. Mais oui, c'est sûr que c'est inquiétant.
Et ajoutez à ça les navetteurs entre Lyon et Paris qui se sont remis au télétravail ce lundi. Autant de clients au moins pour les commerçants de la gare.
Le grignotage dans les trains, c'est fini. Mais il y aura quand même une certaine souplesse pour les enfants en bas âge, les personnes fragiles. Et puis le télétravail est renforcé 3 jours minimum par semaine. Les entreprises récalcitrantes risquent même une amende jusqu'à 1000 euros par salarié. Réussir sa rentrée aujourd'hui, c'est donc s'y retrouver dans toutes ces nouvelles règles qu'on a découvert un peu au fur et à mesure toute la semaine dernière. Bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Hélène.
Des ajustements quotidiens, permanents et une stratégie du gouvernement qui interroge.
Oui, on rembobine le film car comme à chaque vague, le diable se loge dans les détails.
La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres et les transports collectifs, y compris longue distance.
Et voilà, Jean Castex, il y a pile une semaine, très vite, Matignon précise qu'il y aura tolérance, vous le disiez, pour les enfants, mardi 27 décembre, du nouveau à l'école.
La question, c'est qu'aujourd'hui, on en fait faire un test, et probablement, nous allons aller vers 2 ou 3 tests.
Oui, oui.
Une heure après son passage sur France Inter, Jean-Michel Blanquer rectifie le tir. Ce n'était qu'une hypothèse, hypothèse qui devient une certitude, mais 5 jours plus tard, et c'est sur le site internet payant du Parisien que le protocole est dévoilé hier en fin d'après-midi. Foire, salon, zoo, parc d'attractions, il devait être soumis aux jauges. Finalement, non. Revirement 3 jours après le Conseil de défense, trop tard pour le festival BD d'Angoulême, déjà reporté. Le masque des 6 ans, c'est nouveau, mais il faut lire le journal officiel samedi matin, lendemain de réveillon, pour découvrir l'existence de ce nouveau décret. L'isolement raccourci, mode d'emploi tardif, dévoilé par Olivier Véran hier dans le JDD. À chaque jour son variant ou son ajout réglementaire, en attendant mercredi et le prochain Conseil de défense, une communication de crise erratique. Au gouvernement, on démine. Bien sûr que nul n'est parfait. Il y a toujours un temps d'ajustement, explique un conseiller. Mais quand on fera le bilan, on verra qu'on a tout fait pour continuer à vivre malgré le virus. Avantage Macron, parce que chef de guerre dans la crise. Faux, répond l'exécutif. Les Français en ont ras-le-bol, assure un conseiller. Entamer une présidentielle avec des Français le moral dans les chaussettes, ça n'est jamais bon.
Yael Gauze, chef du service politique de France Inter. Le débat, la campagne présidentielle, elle se fait aussi entendre ce soir dans l'hémicycle.
Les députés ont entamé l'examen du projet de loi qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal et les débats sont vifs.
Jean-Luc Mélenchon accuse le gouvernement de semer le chaos et Olivier Véran lui répond en le comparant à Trump ou Bolsonaro, le ministre de la Santé défend un texte de responsabilité face au raz-de-marée Omicron, mais avec plus de 700 amendements déposés, l'opposition est bien décidée à se faire entendre. Le député LR du Lot, Aurélien Pradier.
Vous avez 1000 fois menti. Menti sur la vaccination qui devait mettre un terme à toute la situation sanitaire, menti sur les masques, menti sur le réarmement des lits de réanimation, menti sur le contrôle d'identité qui ne devait être fait que par des policiers, menti 1000 fois. Et parce que vous avez menti, il vous manque aujourd'hui le plus essentiel, c'est la confiance. Vous devez nous entendre, parce que lorsque dans quelques mois nous sortirons de cette crise-là, nous aurons, non seulement en matière de santé publique, mais en matière de démocratie, une sacrée gueule de bois.
Aurélien Pradier, député LR du Lot, réponse du ministre de la Santé, Olivier Véran.
On va débattre ensemble des heures durant, et c'est tout à fait normal. En revanche, me faire traiter tour à tour d'immoral, de menteur, d'incapable, d'incompétent, dangereux, à l'heure où les élus sont si promptes à dénoncer à raison la montée de la violence sociale, notamment contre la classe politique, je pense que nous pouvons donner l'exemple. On peut contester les méthodes et les moyens, pas de problème. La finalité de ce texte de loi, c'est évidemment de protéger la population. Autour de nous, d'autres pays ont fait d'autres choix. Aujourd'hui, ils ont ou des jauges, ou des fermetures totales, ou des fermetures anticipées des bars et des restaurants. Pays-Bas, Belgique, Portugal, Autriche, Roumanie, République tchèque, Estonie, Finlande, Danemark, Norvège. Ce n'est pas le choix que nous faisons en France. Nous laissons les bars et les restaurants ouverts. Nous ne mettons pas de jauge dans les bars et les restaurants.
Vif échange à l'Assemblée nationale, retenu cet après-midi par Maxence Lombrec. Examen au pas de charge. Les débats vont durer toute la nuit pour un vote attendu à l'aube avant l'arrivée du texte au Sénat et une entrée en vigueur espérée par le gouvernement au 15 janvier. Face aux nouvelles restrictions, en tout cas, les aides sont renforcées et élargies pour les entreprises touchées, en particulier dans le tourisme. Toutes les entreprises qui subiront une baisse d'activité de 65% du fait de la crise bénéficieront d'une activité partielle avec un reste à charge nul. Le gouvernement a une marge de manœuvre, 1,8 milliard d'euros qui n'ont pas été utilisés dans le budget et qui serviront à financer ces nouvelles mesures. Et puis on apprend aussi ce soir la mort du Covid d'Igor Bogdanov, 72 ans, 6 jours après son frère jumeau, Grishka. C'est son agent qui l'annonce, les jumeaux n'étaient pas vaccinés.
Il est 19h12, Hélène, le fabricant de chariots Caddy est en cessation de paiement.
Et c'est un coup de massue pour les 140 salariés de cette emblématique entreprise alsacienne de production de chariots. Ils ont appris la nouvelle vendredi dernier. Le tribunal devrait placer la société en redressement judiciaire dès demain. C'est un reportage France Bleu Alsace d'Antoine Ballandra.
Devant l'entreprise, au milieu des chariots de supermarché, les salariés de Caddy sont sonnés, dégoûtés par la nouvelle de la cessation de paiement, comme Jean-Luc.
Plus que dégoûté, c'est déjà le troisième plan que je peux prendre. Avec tout ce que j'ai déjà vu passer, franchement, j'y crois plus.
Certains ont appris la mauvaise nouvelle en rentrant de vacances ce lundi matin. Les salaires de décembre n'ont pas été versés. Difficile à avaler pour Grégory Sorgis, représentant CGT.
Surtout du dégoût. Les gens, ils en ont marre. Il y en a, ils sont très très mal. Les problèmes, mal au ventre, ils sont tous dégoûtés de la société, quoi, surtout.
Les syndicats évoquent une mauvaise gestion de l'entreprise car 40 personnes ont déjà été licenciées l'an dernier. Luc Stromenger est représentant CFTC et secrétaire du comité d'entreprise.
L'État a aidé par le biais des PGE, des prêts garantis par l'État, de subventions. Et on se retrouve devant une cessation de paiement. On savait que la trésorerie était juste, mais avec les aides, on s'est dit, voilà, il y a peut-être un redémarrage possible.
La direction évoque de son côté la perte de marché avec la crise du Covid, mais pas seulement, explique Stéphane Dedieu, le PDG de Caddy.
On subit de plein fouet l'augmentation des prix des matières premières, qui n'est pas forcément acceptée par l'ensemble des clients, ce qui nous a aussi posé un problème de rentabilité.
Le PDG promet qu'il fera tout son possible pour trouver un bon repreneur.
Reportage Antoine Ballandra. Parce que la pollution sonore peut rendre dingue, voici donc un nouveau type de radar. Le radar sonore pour épingler les deux roues moto scooter en sur-régime. Il sera expérimenté à partir de demain dans la Haute-Vallée de Chevreuse, dans les Yvelines. Une première mondiale qui, là-bas, était très attendue. Sébastien Sabiron.
Des paysages bucoliques, un parc naturel verdoyant au printemps, mais la vallée de Chevreuse, c'est aussi ça. Un enfer chaque week-end pour Claude, retraité installé à Saint-Lambert, le long de la départementale 46, très prisée des motards.
On ne peut pas profiter du jardin, on est obligé de vivre fenêtre fermée, quoi. Il y a des moments de la journée où il n'est pas question d'écouter un morceau de musique.
Perché en hauteur le long de cette départementale, les trois premiers radars sonores sont capables d'identifier un véhicule trop bruyant, y compris au sein d'une grappe de motards. Jean-Noël Barraud, député MoDem des Yvelines, à l'origine de l'expérimentation.
Les motards ne sont pas pointés du doigt, les motards sont les bienvenus. C'est l'ultra-minorité qui trafique, qui enlève les silencieux, les chicanes de leur peau d'échappement, pour le plaisir de laisser s'échapper du bruit. C'est cette population-là qui est visée.
Sauf que même une moto parfaitement homologuée peut dépasser le seuil autorisé si le conducteur monte un peu trop dans les tours. Hubert Gourden de la Fédération française des motards en colère dans les Yvelines.
Là où on se méfie, c'est l'usage qu'on peut faire de la mesure si elle n'est pas attribuée au bon véhicule, si les normes de limite ne sont pas adéquates par rapport aux normes de construction des véhicules, qui pourraient faire que des gens qui sont en parfaite légalité se retrouvent avec des pénalités alors qu'ils n'ont rien fait de répréhensible.
Reste encore à fixer par décret le niveau sonore autorisé. Les premiers PV de 135 euros pourraient tomber fin 2022.
Les premiers radars installés donc demain à Saint-Lambert dans les Yvelines et dans cette autre ville de Paris à Nice dans les jours qui viennent. Le feuilleton judiciaire continue pour l'ex-ministre Alain Griset, jugé demain à Lille pour abus de confiance aux dépens de la Confédération nationale de l'artisanat du Nord dont il a été président. Alain Griset qui a démissionné du gouvernement après une première condamnation en décembre liée à sa déclaration de patrimoine. C'est une route de plus en plus empruntée par les migrants et qui n'a jamais été aussi mortelle qu'en 2021. La route des Canaries à la pointe sud de l'Europe. Plus de 4000 personnes sont mortes ou ont disparu en mer l'année dernière en tentant de rejoindre l'Espagne. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir Hélène.
C'est un chiffre tragique de l'ONG Caminando Fronteras.
Oui, et ce bilan est trois fois plus lourd que celui établi par l'Organisation internationale pour les migrations, car Caminando Fronteras mène un recensement des disparus à partir des appels de détresse vers les numéros d'urgence ou des appels des migrants à leur famille. La route la plus mortelle, vous le disiez, est celle qui mène vers les Canaries, dans l'océan Atlantique, depuis l'ouest du continent africain. 4016 migrants y ont péri dans 124 naufrages. Ce sont, selon l'organisation, les chiffres de la douleur. Des chiffres qui disent aussi que plus de femmes, 628, et d'enfants, 205, se sont noyés en tentant de gagner l'Espagne en 2021. L'ONG dénonce évidemment la responsabilité des réseaux de passeurs criminels, mais aussi le manque cruel de moyens de sauvetage et l'intensification des contrôles en Méditerranée qui poussent les candidats à l'exil vers cet océan si dangereux. D'autres chiffres, Hélène, 83 embarcations ont coulé avec l'ensemble de leurs passagers. Aucun rescapé pour en faire le récit, note l'ONG, qui rappelle que les corps de 95% des victimes ne sont jamais retrouvés. Ces macabres décomptes restent donc sans doute en deçà de la réalité, en raison justement des naufrages invisibles.
Marie-Pierre Véraud, l'actualité à l'étranger. C'est aussi l'engagement des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU à prévenir la dissémination de l'arme nucléaire. Les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France entendent ainsi rassurer l'opinion publique mondiale. Et voici donc l'affiche du jour. En football, comme seule la Coupe de France nous le réserve, Vannes reçoit le PSG et quelques-unes de ses stars ce soir au stade de la Rabine. 16e journée de compétition, un club amateur de National 2 qui affronte la meilleure équipe française de Ligue 1. C'est quelque chose pour les supporters vannetais. Sauf qu'il y a une jauge désormais dans le stade. Jean-Pierre Blimeau, vous êtes en direct de Vannes. 5000 personnes maximum. Jean-Pierre, ça fait quelques élus, mais beaucoup de frustrés.
Ah oui, hein, car le stade de la Rabine pouvait accueillir 9600 spectateurs. Il sera donc à moitié vide, Hélène, qui plus est. Sur les 5000 places autorisées, seulement 1700 ont été octroyées au grand public. Et à Vannes, elles sont parties en quelques heures. Parmi les malchanceux, j'ai pu rencontrer César, un jeune joueur de rugby qui a tenté sa chance sans résultat.
J'ai regardé un petit peu, mais les places se vendaient hyper chères après. Enfin, les gens voulaient les revendre et c'était beaucoup trop cher. C'est pas tous les jours qu'on voit Mbappé ou les joueurs comme ça à la Rabine, quoi. Non, Messi, je crois qu'il joue pas.
Oui, alors voir les stars parisiennes, même sans Léo Messi positif au Covid, c'était également la volonté de Jamal, mais lui, ce Vannetais a eu de la chance. Il a eu une place avec une stratégie différente.
Moi, j'habite Vannes et j'étais sur la billetterie du PSG pour avoir le ticket, quoi. Parce qu'il n'y avait aucune place disponible et les tickets étaient revendus 3-4 fois plus cher. Et puis au final, un billet à 20 euros sur la billetterie du PSG. Donc merci Paris.
Alors, beaucoup de demandes et peu de spectateurs satisfaits. La frustration est d'autant plus grande pour Nathan, autre jeune que j'ai rencontré en ville, car c'est un stade à moitié vide qu'il sera contraint de regarder la télévision.
C'est pas pareil, il y a moins d'ambiance et c'est pas la même chose, c'est moins chaleureux et les tribunes là vont paraître vides.
Alors, un stade à moitié vide, mais qui tentera tout de même de soutenir l'équipe de Vannes qui va tenter de créer l'exploit, éliminer le PSG malgré les 3 divisions d'écart.
Tout est toujours possible. Mais absolument. Coupe de France de foot, Jean-Pierre Blibou en direct de Vannes. Le coup d'envoi sera donné tout à l'heure à 21h10.
Allez, merci beaucoup Hélène. On se retrouve bien sûr demain. Nous, on reste ensemble. C'est le téléphone sonne dans un tout petit instant. Vous allez nous donner une idée de votre organisation pour tenter de passer entre les gouttes, entre les enfants qui peuvent revenir de l'école cas contact, votre entreprise qui jongle elle aussi entre présentiel et distanciel. À vos téléphones au 0145 24 7000. mille un œil avant sur le ciel de demain, qui ne nous remontera d'ailleurs pas forcément le moral.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Mais là, on sait que c'est de votre faute, Élodie Calac.
Hein. Évidemment.
Bah, évidemment, une perturbation traverse le nord, Élodie.
Oui, avec des pluies parfois soutenues ce soir et cette nuit, du vent également. Demain matin, on retrouvera ce temps agité de la Vendée et des Charentes vers le bassin parisien, le centre Val-de-Loire, le nord-est, le nord des Alpes. L'après-midi, il pleuvra surtout de l'Aquitaine au Grand Est. Il neigera un peu vers 1200 mètres sur l'ouest des Pyrénées. Le vent, lui, persistera. Il atteindra 80 à 90 km à l'heure en montagne. Près de la Manche, un ciel d'averse s'installera le matin avec du vent. Les averses gagneront tout le nord-ouest l'après-midi, la région parisienne et les Ardennes. Elles seront fréquentes de la Normandie jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Et puis de l'Occitanie vers la vallée du Rhône et la région PACA, ce sera calme avec un soleil parfois voilé, mais pas mal de nuages autour de la Méditerranée.
Et il fera encore doux, hein ?
Oui, ça commencera à baisser tout de même sur le nord-ouest. On va se rapprocher des moyennes de saison à partir de mercredi. En attendant, demain, il fera 8 degrés à Dinard l'après-midi, 9 à Dieppe, Lille et Metz, 10 à Paris, à Angers, 14 degrés à Bordeaux, à Lyon, 16 à Marseille et à Nice, 17 à Mulhouse, à Toulouse et 18 à Tarbes.
Élodie Calac de Météo France.